Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Fatima Benomar et Fred Hermel. Avec vous, bien sûr, au 32-16 pour réagir à tous nos débats aujourd'hui et notamment celui-ci dans quelques instants. Plus de 200 migrants bloqués sur un navire humanitaire au large de l'Italie qui ne veut pas en entendre parler. La France doit-elle accueillir ces migrants? On vous attend au 32-16 sur l'application RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi qui va s'intéresser aux célibataires. Et mieux vaut ne pas être célibataire, en ce moment, en tout cas financièrement. À 14h, la proposition d'Éric Ciotti de supprimer les droits de succession et de donation. D'accord ou pas d'accord avec lui. 14h30, RMC s'engage pour vous. Et Amélie Rosic qui va tenter d'aider Hervé. Hervé a souscrit une mutuelle pour ses soins dentaires, mais il n'arrive pas à se faire rembourser. Ça fait dommage quand on a souscrit une mutuelle. Et puis enfin, bien sûr, Rémi, on ouvrira le coffre RMC. Enfin, peut-être.
Peut-être. À quelques jours du début de la Coupe du Monde, RMC vous offre en effet le meilleur équipement high-tech grâce au coffre. RMC, vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 73216. Si vous êtes sélectionné, vous repartez soit avec un iPad, soit avec une enceinte Marshall Woburn. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir de remettre en jeu ce cadeau. Vous y renoncez donc et vous ouvrez le coffre RMC avec à l'intérieur des AirPods ou encore la totale Coupe du Monde avec une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Ah.
Ça tient dans le coffre.
Absolument, oui, mon ami. On a compacté.
C'est un gros coffre.
Alors, est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC? Vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216.
RMC, Estelle Midi.
13h04 sur RMC, RMC Story. On va s'intéresser au drame du jour dans Estelle Midi. C'est celui de plus de 200 migrants bloqués en Méditerranée sur un navire humanitaire. L'Ocean Viking navigue au large de l'Italie qui ne l'autorise pas à accoster. Alors la France va-t-elle faire un geste en faveur de ces migrants? La réponse ce matin d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.
Ce bateau, il a vocation à être accueilli en Italie. L'attitude actuelle du gouvernement italien, et notamment les déclarations et le refus de laisser accoster ce bateau, à contrario de toutes les règles européennes qui ont été acceptées par l'ensemble des pays de l'Union, est inacceptable. Donc nous souhaitons, à l'heure où le bateau est encore dans les eaux territoriales italiennes, que l'Italie joue son rôle et respecte ses engagements européens. Donc,
alors le navire se dirige désormais vers la France et plus particulièrement la Corse qui pourrait lui permettre d'accoster. Mais Rémi, pourquoi Olivier Véran pointe l'Italie du doigt?
Mais il l'a dit, hein, parce qu'en vertu de plusieurs accords internationaux ou européens, notamment la Convention de Genève de 1951 sur le droit des réfugiés, Rome a une obligation de non-refoulement des migrants. C'est l'article 33. Le bateau se trouve dans les eaux italiennes, même s'il a pris la direction de la France maintenant. Mais comme c'est déjà arrivé par le passé, en fait l'Italie refuse de prendre à elle seule en charge le problème migratoire, malgré les nombreuses aides financières accordées à l'Italie par l'Europe pour gérer ce problème. Et en fait, Rome, l'Italie, refuse d'accueillir ces migrants. C'est d'autant plus vrai que depuis l'arrivée au pouvoir, le mois dernier, il l'a évoqué, Olivier Véran, de Giorgia Meloni, la première femme présidente du Conseil des ministres italien, élue du parti d'extrême droite post-fasciste Frère d'Italie. C'est le parti d'extrême droite le plus à droite qu'ait jamais connu l'Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Durant la campagne électorale, elle avait évoqué son intention d'instaurer un blocus naval des côtes libyennes d'où partent les migrants. Son gouvernement envisage maintenant de rétablir les décrets sécurité qui criminalisent les ONG, les organisations humanitaires qui viennent en aide à ces migrants. Et puis un décret de la présidente du Conseil prévoit également seulement une prise en charge des mineurs, des femmes et des personnes malades après un contrôle sanitaire. Les autres devront retourner dans les eaux internationales. Et ça a été mis en application un peu plus tard qu'il y a quelques jours au port de Catane où un bateau de migrants est arrivé. On a laissé débarquer les femmes, les enfants, les malades. Mais en revanche, 35 hommes qui avaient pris place à bord de l'Humanity One se sont vus refuser le droit de débarquer et donc refouler vers les eaux internationales.
Alors la France doit-elle accueillir ces migrants? Je pense avec vous, Fred Hermel.
On n'a plus les moyens, malheureusement. On n'a plus les moyens.
C'est 234 personnes.
Oui, il y a 200 personnes qui sont installées, Porte de la Chapelle hier, des migrants aussi. par humanité, on doit bien accueillir les migrants. Et aujourd'hui, la France n'a plus les moyens d'accueillir les migrants. Il y a déjà beaucoup d'immigrants qu'on n'arrive pas, dont on n'arrive pas à s'occuper. Ils sont dehors dans des tentes, à Paris. Donc il y a un gros problème de moyens. Non, la France n'a plus les moyens. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Alors moi, il y a un truc qui m'a choqué dans ce qu'a dit Olivier Véran. Il a dit qu'il retourne en Italie, non ? Ça renvoie, c'est ce qu'il a dit, non ? Il faut qu'il aille en Italie, ce bateau.
Oui.
C'est ce qu'a dit Olivier Véran.
Parce qu'il y a des accords.
Oui, parce qu'il y a des accords. Oui. Mais alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est il y a la Méditerranée, il y a d'autres pays. Pourquoi, je sais pas, l'Algérie, le Maroc n'accueillent pas ces migrants ? Laisse-moi terminer simplement. Pourquoi l'Algérie et le Maroc n'accueillent pas ces migrants ? Je me pose la question.
Mais parce que là aujourd'hui, ces migrants, ils sont plus proches de l'Italie et de la France.
Oui, mais au départ, ils
étaient. Tu vas pas leur faire encore 4 jours de bateau.
Mais la question.
Il y a une politique scandaleuse du Maroc qui, par ailleurs, joue les sous-traitants de l'Espagne pour tirer un vue de nez sur les Africains.
Pourquoi, je termine, pourquoi c'est toujours l'Europe qui doit accueillir les migrants
en Méditerranée ? Mais parce que c'est le droit maritime.
Mais au départ, ils étaient.
Le droit maritime.
Je te passe la parole. Le gros problème qu'il y a avec ces associations, c'est que, de fait, ils sont les complices des passeurs.
On va pas les laisser mourir.
Non, mais je très bien. Comment ça se passe ? C'est que les bateaux, les gens payent des fortunes pour monter sur des bateaux qui sont des dangers terribles par des passeurs, c'est-à-dire qu'ils sont des trafiquants d'êtres humains, et puis qui contactent rapidement les bateaux, dont l'Ocean Viking, qui viennent récupérer ces migrants. Donc il y a une complicité presque active de ces. Mais non, mais c'est dénoncé par plein de gens.
Mais comment tu veux faire autrement, Fred ?
Mais pourquoi c'est la France qui devrait le faire ?
Tu parles des organisations humanitaires. Fred. Comment tu veux que les organisations humanitaires fassent autrement ? C'est ce que tu dis ?
Mais elles sont les complices déjà.
Tu les laisses mourir alors.
Elles favorisent les passeurs.
Et quand ils interviennent et que les bateaux sont en train de couler, tu crois que c'est parce qu'ils ont appelé avant ? Enfin, excuse-moi.
Il y a plusieurs cas, mais très souvent, les bateaux commencent parce qu'il y a des
ONG. Je suis désolé, Fred, mais ce ne sont pas 234 migrants qui vont changer le quotidien.
Mais c'est 234.
Laisse-moi finir. Qui vont changer le quotidien de 67 millions de Français. La seule vague de submersion qu'on risque dans cette histoire, c'est la vague qui va ensevelir ces enfants, ces hommes et ces femmes dans la Méditerranée.
C'est une horreur.
C'est une horreur.
Et il faut se battre contre les mafias qui trafiquent les êtres humains.
Mais tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? On les accueille parce que 234,
la France
peut les accueillir.
Pourquoi la France ?
Michel Rocard disait il faut. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit y prendre sa part.
Mais on a déjà pris largement notre part.
On peut la prendre. Mais l'Allemagne l'a pris bien plus en accueillant 1 million de migrants.
En choisissant qui les accueillir.
Ah, mais je suis d'accord avec ça.
Ah, c'est pas pareil.
Je suis d'accord, mais choisissons. Mais en tout cas, dans un premier temps, l'humanitaire veut qu'on accueille ces gens.
Mais alors après, tu fais quoi ? Tu les renvoies chez eux ?
Alors non, mais il faut qu'il y ait une coopération européenne pour qu'ensuite ils soient répartis sur l'ensemble du territoire européen.
Vas-y avec la Pologne.
Et tu crois que l'Italie va dire oui ?
Ça, c'est le travail de la diplomatie et de l'Europe.
Parce que Mélanie, elle ne veut plus discuter, tu vois.
Ouais. Okay, et elle a été élue, hein, et elle donne des idées à beaucoup de monde, à mon avis.
Fatima Benomar, est-ce que la France aujourd'hui est capable d'accueillir dignement ces réfugiés ? Parce que, évidemment, si c'est encore une fois pour les mettre porte de la chapelle, c'est sûr c'est aussi un problème quand même.
Elle en a toute la possibilité. On parle de la 5e ou la 6e, je ne sais plus, puissance mondiale. Effectivement, elle est très coupable, la France, de laisser les personnes comme elles sont porte de la chapelle. C'est-à-dire que normalement, on accueille, on forme et on insère. Voilà. Et donc, en fait, d'ailleurs, je me souviens que quand il y avait eu la crise des réfugiés en 2015. Déjà, j'encourage vraiment les personnes à aller les rencontrer. Vous savez, quand on était à Place Jaurès avec des interprètes, avec des associations qui leur apprenaient le français, et que tu parles individuellement à ces personnes-là, tu as tout de suite une autre vision. Tu vois qu'ils sont complètement insérables si toutefois on se préoccupe de leur sort. Je voudrais déjà, contrairement à ce qui a été dit, rendre hommage à ces sauveteurs qui se retroussent les manches, parce que je me souviens que quand on a commencé à parler du cimetière de la Méditerranée, on en faisait des débats un peu théoriques, voire philosophiques sur qu'est-ce que c'est que ce siècle qui s'ouvre. Voilà, après l'émotion notamment du petit enfant Aylan qui était issu de Kobané, et ben il y a des personnes qui se sont retroussées les manches et qui s'organisent avec des ONG pour aller les trouver et les sauver un par un. Quand on parle de 234 migrants, je pense qu'il faut vraiment commencer à parler de 234 personnes, parce qu'avec des mots comme migrants, même d'ailleurs qu'on a déjà eu avec avec sans-papiers ou OQTF, on perçoit ça comme des aliens, c'est-à-dire qu'on oublie que c'est un statut administratif et que ça devient limite un marqueur d'humanité parallèle. Donc ce sont des personnes qui se retrouvent à une situation donnée dans une situation administrative donnée. Par rapport à ce que tu dis, Fred, de toute manière, là, la COP 27 commence à s'ouvrir. On dit que là, on est à 1,2% de réchauffement climatique d'aggravation. Quand ça arrivera à 2, il y aura 1 milliard de déplacements qui vont plutôt se faire sud-sud, et c'est déjà le cas. Aujourd'hui, la plupart des migrations sont déjà, en fait, dans les pays du sud et du sud, et quoi qu'il en soit, elles devront monter vers le nord. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a des forteresses avec, en plus, l'élection du gouvernement d'extrême droite, c'est qu'ils disent, on va faire forteresse, et même quand tu dis immigration choisie, c'est pas la même chose, les réfugiés et l'immigration. L'immigration de travail est là, mais là, on parle de réfugiés, on ne peut pas les sélectionner, trier, et dire, toi, tu rentres, on en a besoin, et toi, tu sors. Donc, il va falloir prendre ce débat par le grand bout de la lorgnette et commencer à dire que l'immigration sera la question du siècle prochain parce qu'elle est liée justement à la question du climat. Et il faut savoir comment accueillir, insérer. Il y a du travail pour tout le monde si toutefois un système économique sain et égalitaire se met en place.
Tout le monde doit prendre sa part. Voilà, et c'est ce que disait.
Absolument.
Mais voilà. Tu peux pas avoir la France qui va prendre tout le monde. C'est impossible.
C'est pour ça que moi je dis qu'il faut lutter pied contre pied contre l'extrême droite, contre la fascisation des esprits. Et on essaye de le faire avec certains militants. Je pense que malheureusement qu'on est à contre-courant et que ça va...
Ah oui, je te confirme que Marine Le Pen est sur une autoroute. Là.
Oui, je sais. Ouais. Et c'est de notre devoir, en tout cas. C'est du mien. Et justement, l'une des stratégies, je pense vraiment, c'est d'aller à la rencontre humaine des migrants.
Thierry Moreau, c'est vrai que là, Mélanie, en Italie, elle a quelque part ouvert la voie au Front National. Oui. Et c'est évident que tu vas avoir beaucoup
de gens qui vont se dire, regardez, la fermeté paye.
En Italie, ça paye.
Ça fermeté paye.
C'est un gros problème quand même.
Oui, parce que si jamais tous les pays qui bordent la Méditerranée faisaient front commun comme Mélanie en disant on n'accueille plus personne, bien, je pense que les bateaux couleraient avec les gens dessus. Donc je pense qu'on a un véritable problème. Il faut négocier pied à pied avec l'Italie, donnant, lui accorder certains trucs en échange du fait qu'elle accepte ses bateaux. C'est des négociations, c'est de la diplomatie.
Mais le peuple italien ne veut plus.
Je pense qu'on a des leviers économiques sur l'Italie, notamment de péréquation d'aide qu'on donne à l'Italie. Il faut jouer là-dessus, mais il faut que tout le monde prenne sa part. 234 personnes.
Aujourd'hui, c'est 234, comme l'a dit Fatima.
Depuis le 1er janvier, il y a 88 000, selon les autorités italiennes, 88 100 personnes qui sont arrivées par la mer sur les côtes italiennes.
Je rappelle que l'Allemagne a accueilli 1 million.
Oui, non, mais. Oui.
Et l'extrême droite a gagné les élections juste derrière.
Oui, d'accord, mais enfin.
Ben oui.
En 2021.
Et Angela Merkel a reconnu.
Non, il faut donner des chiffres. Attends. En 2021, l'Allemagne a été le pays de l'Union européenne qui a enregistré le plus grand nombre de demandes d'asile, 148 200. Devant la France, 89 400, l'Espagne, 65 400, le Royaume-Uni, 56 000 et l'Italie, 43
000. Elle n'a pas du tout été déstabilisée, au contraire, elle a bien présenté en fait à quel point ça a même redonné un souffle et une dynamisation à leur économie.
Donc, ils sont en récession là, donc.
Mais quoi qu'il en soit, c'était pas par rapport en fait à l'emploi des migrants, c'est plutôt parce que c'est vrai que c'est un modèle économique par ailleurs qui est assez inégalitaire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas parce que tout à l'heure on parlait de problèmes, je pense qu'on peut aussi. On n'est pas obligé de présenter ça non plus comme un problème.
On a Thierry qui nous appelle de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Bonjour Thierry.
Bonjour à vous, bonjour Estelle, et puis vive la Bretagne, parce que je suis breton, même si je suis dans les Yvelines.
Moi, je
suis inquiet, justement, c'est bien d'accueillir tout le monde, mais le problème, c'est, comme je disais au standardiste, à la personne, c'est que on va les retrouver où ? On va les retrouver à côté du Stade de France, au feu, en train de faire la manche, à donner aux enfants de demander de faire la manche, parce qu'on va les accueillir en France, c'est une bonne chose. Après, vous allez essayer d'expliquer aux Français qui ne sont pas forcément des électeurs du Front National ou autre, une fois de plus, de vouloir accueillir des personnes qui sont en situation précaire, parce que ils sont quand même en situation précaire sur un bateau. Vous avez aussi, faut pas oublier que vous avez demandé aussi, le gouvernement a demandé aussi aux Français de faire des sacrifices par rapport à la guerre, ce qui se passe en Ukraine. Il y a des Ukrainiens qui sont arrivés en France avec leur famille.
Beaucoup sont partis.
Oui, mais il y en a quelques-uns qui sont et qui s'intègrent, c'est merveilleux, c'est très bien, c'est l'Europe, mais quand vous pensez que par exemple certaines personnes, on leur a trouvé aux Ukrainiens ou autres des places quelque part et qu'il y a des Français qui cherchent encore, enfin des Français, des Européens français on va dire, parce que sinon ça fait un peu trop le langage du Front National qui n'est pas ma tasse de thé à moi personnellement.
Européen français c'est pas mieux.
Oui, bah alors je sais pas comment dire le mot exact, excusez-moi, je suis pas...
Bon, bah voilà. Non mais on comprend Thierry.
Ce que je veux dire par là franchement, c'est que vous allez demander une fois de plus aux Français de faire sacrés efforts. Les Italiens refusent, donc c'est pas grave. Ils vont être basculés un peu partout, mais surtout en France. Et vous avez des gens, des Français qui dorment dans la rue, d'autres étrangers, d'autres personnes en situation précaires qui dorment déjà dans la rue et qui sont de pays étrangers. Vous en rajoutez. Mais vous pensez comment on va faire, comment ça va se passer, comment
parce
ça
que vous, en fait, mais le problème c'est l'accueil. Ah,
il a raison, on va dire les pauvres les uns contre les autres. C'est-à-dire que la solution, ce qui vole son pain, on va dire, aux Français pauvres, c'est bien sa condition sociale et c'est bien le fait en fait qu'il est exploité tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le migrant. C'est-à-dire que la question comment on sort de la paupérisation des Français. C'est pas en baissant le nombre de migrants, c'est en...
Mais plus tu rajoutes des gens en situation précaire, et moins c'est facile de les accueillir et de les insérer. Là, t'es forcément
d'accord avec ça. Tellement évident
c'est ça le problème. La question, c'est la redistribution des richesses, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement assainir...
Il y en a de moins en moins dans ce pays.
La France est le pays le plus redistributif du monde.
Non, on va parler tout à l'heure des droits de succession, c'est pas vrai. De l'argent, il y en a.
Tu parles de l'argent privé, mais l'argent de l'État, il y en a de moins en moins.
L'argent de l'État est lié directement. Typiquement, le débat sur les droits de succession, c'est lié à la taxe. C'est de l'argent qui revient à l'État.
Allez-y, Thierry.
Juste une petite question, parce qu'après je sais que le débat doit continuer. Moi, vous me parlez de tous les pays qui accueillent des personnes dans des situations comme ce qui se passe actuellement. Vous êtes en train de m'expliquer, oui, tel pays reçoit telle et telle personne. Dites-moi exactement, est-ce que vous pouvez me chiffrer au jour d'aujourd'hui, me dire maintenant, combien de personnes sont dans les rues dans chaque pays que vous avez énoncé? Combien d'Anglais sont dans les rues en train de dormir? Combien
Les Anglais, de plus en plus.
Combien d'Italiens dorment dans les rues parce qu'ils n'ont pas les moyens? Combien d'Allemands, combien d'Européens dorment dans la rue? Puis après, d'accord, là, on va pouvoir discuter. Mais pour l'instant, on parlait seulement des pays qui sont en train d'accueillir des personnes en situation précaire, parce que je préfère dire des situations précaires. Vous me dites, oui, il y a tel et tel pays qui accepte ces gens-là. Mais moi, je serais intéressé de savoir combien il y a d'Italiens qui dorment dans les rues.
Il y a des gens dans la rue parce qu'il y a une crise du logement, parce qu'on est dans des systèmes de rente par rapport à l'accès au logement. La personne qui met dehors des gens dans la rue, c'est parce que c'est le prix des loyers et le prix des salaires.
Il n'y a pas que ça.
Il
n'y
a pas que ça.
Il
n'y
a que ça. C'est pour ça qu'il y a des gens dehors dans la rue.
Non, mais tu vois, c'est des gens dehors dans la rue parce qu'ils ont eu des accidents de la vie qui font qu'ils ne peuvent plus travailler aussi.
Je suis désolé, mais là j'entends qu'il y a un langage de femme politique ou d'homme politique. Excusez-moi, madame, je ne retiens pas votre nom, mais bon, pour l'instant vous faites un langage de femme politique. Vous faites une parole de politicienne. Vous ne l'êtes pas, ce que je sais, mais vous êtes. Je vous pose une question, vous me répondez à côté.
Exactement ce que vous dites. Ce n'est pas cause du migrant. En fait, vous savez, il y a un petit dessin qui parfois est sur les réseaux sociaux qui montre une personne, un propriétaire riche, et qui dit au petit ouvrier blanc attention, qui a une accumulation d'argent devant lui, qui lui attention devant les deux sous que vous avez, il y a le migrant qui va vous piquer un sou. C'est ça
là tu peux pas demander au particulier qui a un peu d'argent d'accueillir tous les migrants. C'est une politique d'État, enfin j'ai un moment là, faut pas tout confondre.
Dans le pays le plus taxé au monde
et le plus redistributif du monde, donc à un moment tu voilà, c'est pas
on va en reparler sur les
droits. C'est pas le retraité qui a un peu d'argent qui va accueillir les 234 personnes qui sont malheureusement
en revanche l'utilisation de l'argent public est un vrai débat.
On est d'accord, mon bon Thierry.
Juste là, actuellement, en tout cas, c'est la Corse qui devrait accueillir, en tout cas, ces 234 personnes sur l'Océan Victime. Il devrait accoster dans le port de Bonifacio, certainement, demain matin. On va écouter tout de suite Gilles Simeoni, il est président du conseil exécutif de la Corse.
On ne peut pas, alors qu'il y a des gens qui sont en souffrance et en détresse absolue, à quelques dizaines de kilomètres des côtes de Corse, détourner les yeux et faire comme si cela n'existait pas. La Corse est prête à accueillir au titre de l'urgence, dans un de ses ports, ce bateau pour que les gens qui sont à bord, et notamment les enfants, mais pas seulement, puissent bien sûr recevoir les premiers soins et notre soutien. C'est un devoir d'humanité et je pense que tout le monde, Corse ou pas Corse, peut et doit le comprendre.
Voilà, donc la situation devrait s'améliorer.
Beaucoup politique,
bien sûr,
hein, Simeone, beaucoup politique.
Bah, il est politique, mais enfin, au moins,
très bien,
il accueille. Voilà.
Oui, il accueille.
Bah,
il
comprend ce qu'il y a derrière quand même.
Oui. Qu'est-ce qui va se passer après?
L'attitude de Mélanie est une attitude politique, l'attitude de
Simeone est une attitude politique.
Et l'attitude du président Macron est une attitude politique.
Exactement, on est tout à fait d'accord.
On entend beaucoup aussi, voilà, si la France accueille, ce sera un appel d'air pour les autres. Et effectivement, il y aura encore plus de gens qui vont tenter leur chance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Thierry? C'est-à-dire qu'effectivement, mais il y a aussi ce problème-là, quoi.
Mais il y a un problème sur lequel Fred a mis l'accent tout à l'heure, c'est Frontex. C'est-à-dire qu'il faut absolument des moyens considérables pour non pas stigmatiser les associations, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse, mais en revanche, chasser les mafieux et les passeurs. Parce que ça, c'est une filière économique monstrueuse.
Ce sont des milliers de dollars par personne pour traverser
la
Moi, c'est un problème. Quand j'ai vécu en Espagne, cette question-là, en Espagne, ça fait 20 ans qu'on en parle.
Non, mais t'es d'accord qu'il faut mettre des moyens sur Frontex. C'est la seule solution que l'Europe... Et donc l'Italie aussi.
Bien sûr.
Des moyens.
Mais juste que ces gens sont partis sur un
canot. Mais ils sont partis, c'est trop tard.
Je suis pas du tout d'accord. Au contraire, les associations et les ONG qui les accompagnent disent que plus on durcit Frontex, en fait, plus on renforce en fait le système des passeurs. Et donc, au contraire, il faut ouvrir les frontières. Il faut leur permettre de passer.
Il faut ouvrir les frontières. C'est ça le problème de Fatima. Toi, tu es pour l'ouverture totale.
Si on arrête les passeurs, on les condamne. Il y en aura moins.
Les personnes qui partent, elles trouvent comme solution, on va dire, les passeurs. Mais à un moment, elles doivent partir. Comme on dit, les parents, comme ils disent, on ne met nos enfants sur un radeau que quand on est sûr que la mer est plus sûre que la terre. Voilà. En fait, le problème structurel
qu'il y a, c'est... Mais si on arrête les passeurs, Fatima, si on arrête les passeurs et qu'on les condamne...
Je suis allée en Espagne avec une personne qui est passée avec un radeau et même elle n'était même pas avec un passeur. C'est-à-dire qu'ils trouvent même des situations d'entraide entre eux pour pouvoir
On va expliquer pourquoi. Parce que le détroit d'Gibraltar est tout petit, c'est 14 kilomètres entre l'Afrique et l'Espagne. Donc oui, quand ça passe par là, les gens ne passent pas par les passeurs.
Ce que je veux dire, les personnes vont quitter en ce moment les pays du Sud pour des questions de conflits géopolitiques, pour des questions de survie et pour des questions de l'État, en fait, de l'agriculture face à la... Ils ne sont pas en train de suivre les infos en disant « Ah là là, il y a Mélanie, machin et tout ». Pas du tout. À un moment, on quitte, on part, et un exil est souvent un déchirement. Et en plus, s'ils ont l'information qu'on est accueilli en France, ils ont aussi l'information sur, en fait, la clochardisation, sur, en fait, l'accueil déplorable, etc.
Je pense pas que tu risques de t'aller dans un bateau pour finir sous un pont à Paris.
En tout cas,
c'est un Eldorado.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas des informations partielles. Ils partent quand c'est une nécessité. Oui. On ne part pas sur un radeau quand ce n'est pas une nécessité.
Mais après, la France, et pas que la France d'ailleurs, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, c'est des Eldorado. Ce sont des Eldorado.
Ils ne voient pas en disant on va dans d'autres pays du Sud. L'immense majorité des déplacements a lieu dans d'autres pays du Sud.
On est avec Amadou qui nous appelle de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour.
Amadou,
bonjour.
Est-ce qu'on doit accueillir ces 234 personnes qui sont sur l'Ocean Viking?
C'est Amadou, mais c'est pas grave.
Qu'est-ce que je viens de dire?
J'ai cru que t'as dit Amadou.
Non, Amadou.
Pour moi, je suis d'accord en fait avec ce que Thierry Monroy a dit. C'est pas 250 personnes qui vont changer la vie de 65 millions de Français. On l'a bien vu avec les Ukrainiens. On a pu accueillir les Ukrainiens en France. On peut le faire. Moi, je pense que c'est un manque de volonté. Je pense que c'est un manque de volonté politique. Je pense que en France, les politiques, ils ne veulent pas. En fait, c'est-à-dire, ils ont peur en fait de ce qu'ils appellent l'appel des RTS. On accueille 250 personnes. Certaines personnes vont penser qu'en France c'est la porte ouverte, donc du coup on fait rien du tout. Donc du coup on laisse en fait Porte de la Chapelle, les endroits comme le truc du crack là.
La colline du crack, tout à fait.
Donc du coup on laisse ça se détériorer, mais en fait on fait rien, alors qu'on a la possibilité de les accueillir dignement. Et je voudrais dire aussi que je suis choqué à propos des propos de Fred Hermel. Fred Hermel, franchement, moi j'écoute beaucoup l'after foot, donc j'écoute ses analyses et tout au football. Je suis souvent d'accord avec lui sur certains propos qu'il dit concernant le foot, mais quand il parle de trucs de société générale, dans la société et de trucs.
Oui, vous aimez moins. Mais Amadou, moi
je suis choqué de ses propos.
Oui, je suis un Français moyen qui pense comme 90% des Français.
Amadou, il y a aussi un truc. Vous avez parlé de l'Ukraine. La différence avec l'Ukraine, c'est que quand les Ukrainiens sont arrivés, déjà, a priori, ils n'avaient pas vocation à rester, ils devaient partir, mais surtout, vous avez plein de familles en France qui voulaient accueillir des Ukrainiens. Et le problème, c'est que
les épouser.
Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous demandez à plein de familles, est-ce que vous voulez accueillir ces gens, ces réfugiés, je vous assure, et c'est malheureux, et on va être d'accord là-dessus, mais vous allez avoir que des refus, beaucoup de refus.
C'est pour
sinon,
ça qu'il faut organiser ça.
C'est ça la différence.
Vraiment, il y avait, je me souviens, un cinéaste à l'époque qui allait les interviewer un par un sur leur parcours individuel, sur leur personnalité, etc. Et quand on se retrouvait, vraiment cet a priori raciste, il sautait. Vraiment, il suffit en fait de faire la rencontre humaine pour le.
C'est pas un a priori raciste, mais en fait beaucoup de gens, beaucoup de gens se disent.
D'affinité culturelle.
C'est terrible à dire, mais la vérité elle est là parce que des réfugiés.
Vraiment, il y en a plein, les gens auraient dû les accueillir. Il peut être très fort, c'est pas non, ça.
Mais t'as plein de gens qui ont accueilli des Ukrainiens, mais qui n'auraient pas accueilli des Soudanais.
Oui, je reprends ce que disait Amadou. Ce que je pense qu'a choqué dans ce que tu as dit, Fred, c'est dire on ne peut plus. On a encore de la marge.
On demande aux Français de baisser le chauffage. On ferme des lycées. On ferme des lycées parce qu'on n'a pas d'argent.
L'argent public pourrait être mieux. L'argent public pourrait être mieux utilisé et on pourrait très bien accueillir ces personnes-là. Point. Je pense que c'est ça qui a choqué Amadou.
Bon, alors on a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a une très large majorité qui se dégage, Rémi Barré.
C'est non, le non l'emporte très, très largement à 89% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Voilà, non pour accueillir ces 234 réfugiés. Dans un instant, le meilleur d'RMC, le zapping. On se demandera s'il vaut mieux acheter ou louer. On va parler d'immobilier. C'est la question que beaucoup de gens se posent. On va se demander également à qui est vraiment due la hausse des prix dans les supermarchés. Et puis, on parlera de l'affaire Agnès Pannier-Runacher. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Fatima Benomar et Fred Hermel. Dans un instant, il y aura le zapping, les meilleurs moments d'RMC. Mais avant cela, une info, une énorme info, on en parlait il y a quelques instants et ça y est, c'est officiel, la réunion de l'Assemblée nationale est terminée. Et la veste devient obligatoire pour les députés masculins à l'Assemblée. La cravate, elle, n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Voilà, on verra donc.
C'est nickel, mais c'est le bon sens.
Oui, c'est votre bon sens, Fred.
Je viens, c'est toujours une veste.
Ça ne changera rien à ma vie.
Disons que c'est la majorité issue des dernières élections qui a choisi ça, parce que le bureau est représentatif de la majorité.
Donc. Voilà.
Allez, tout de suite, le meilleur d'RMC, c'est le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Agnès Pannier-Runacher est-elle en situation de conflit d'intérêts? Dans une enquête du média d'investigation Disclose, publiée hier, on apprend que les enfants de la ministre de la Transition énergétique sont propriétaires d'une société dont les fonds sont domiciliés en partie dans des paradis fiscaux. Le média soupçonne également ces fonds de provenir de l'industrie pétrolière dont le père d'Agnès Runacher était responsable. C'est pas facile pour Bruno Poncé. DGG, c'est complètement immoral et hors sol.
C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'elle est ministre de la transition écologique et derrière, c'est dans sa famille, ils investissent dans le pétrole. Alors son père, c'est un haut cadre de grandes entreprises pétrolières pendant des années.
Enfin, c'est pas de sa faute.
Non, mais c'est pas de sa faute. Mais à un moment donné, c'est comme si, Macron pour la cause de la nature et des animaux, il prenait un boucher. Quoi. On en a plein dedans. Enfin, ils sont hors sol. Et aujourd'hui, la conséquence de tout ça, une fois de plus, c'est que
les chasseurs. Hein.
Et des gens comme moi, et je suis pas le seul en France, malheureusement, on le voit bien aux dernières élections. Mais non seulement t'as pas envie d'aller voter. Deuxièmement, dans ta tête, tu te dis, tous pourris. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais il y en a pas un qui sort du truc. Quoi. Ça me rappelle.
Il n'y a rien d'illégal. Hein.
Non, mais il n'y a rien d'illégal, sauf qu'il y a un vrai problème de morale et de valeur.
Thierry Moreau, effectivement, il n'y a rien d'illégal, mais on se place plutôt du côté de la morale. Est-ce que ça vous gêne, vous, cette
Rien ne va dans cette histoire. Alors, moi, je ne me placerai pas sur le plan de notre ami des Grandes Gueules, parce que le fait que son père est dans l'industrie pétrolière, elle peut être militante. Ouais. Je rappelle que la fille de Randolph Hearst, qui était un mania de la presse, était un membre de l'ultra-gauche. Donc, je veux dire, ça n'a pas de rapport. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est qu'il y a eu transmission de patrimoine entre le père et les petits-enfants, qu'aujourd'hui la Haute Autorité pour la Transparence de la République ne vous oblige qu'à déclarer que vos propres intérêts et pas ceux des enfants. Ça a été retoqué en 2013 par le Conseil constitutionnel en disant que l'atteinte à la vie privée était trop importante. Mais là, en l'occurrence, une transmission de patrimoine du père vers les enfants pour sauter la génération de la ministre, en l'occurrence. C'est ça le truc. Et en plus, avec des fonds provenant pas tellement de l'industrie pétrolière, ça je m'en fous, dès qu'il y ait des sociétés pétrolières dans le monde, ça existe. Mais domicilé dans des paradis fiscaux, ça me gêne beaucoup plus. Donc je pense que rien ne va dans cette
histoire. Mais c'est ses enfants, ils sont majeurs. Tu vois ce que je veux dire, t'es pas responsable.
Ils n'étaient pas majeurs au moment de la transmission.
Il y en avait d'abord 5 ans, 6 ans. Enfin,
voilà, donc c'est vraiment...
Sans l'optimisation,
sans accusation. Oui. Donc, la vraie question, c'est qu'il va falloir à un moment se poser la question d'une différence entre déclaration de patrimoine, ce qui est le cas aujourd'hui, et une déclaration d'intérêt.
C'est ça.
Parce que les intérêts aujourd'hui, là, sont évidemment, il y a un conflit latent. Enfin, oui, majeur.
Pour vous, elle doit démissionner, Fatima ?
Déjà, je voudrais vraiment souligner le scandale de la question de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale qui structure en fait tout le reste de nos débats. C'est-à-dire que si vraiment l'argent qui s'évadait, qui dormait dans les paradis fiscaux revenait en France, franchement, ça réglerait bien des débats qui sont en général réglés par on n'a plus d'argent.
Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits quand même ces dernières années.
Ben, équipe.
si, quand même.
Il faut vraiment continuer. C'est parce que vraiment, à un moment, il y a eu une volonté politique d'aller, notamment après l'affaire Cahuzac. Et là, bah, clairement, il y a un moment...
Comment dire ?
Hein ?
Sous Macron.
Oui, mais sous la pression aussi. Tu sais, il y a rien.
Ça avait commencé avec Hollande.
Là, ce qu'il faut voir, c'est que
voilà, il faut vraiment se dire qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Tout est toujours le fruit d'un rapport de force. Et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, quand on est en représentation politique, à un moment, il faut continuer à convaincre son peuple qu'on est dans les objectifs qu'on promet de remplir. C'est sûr. Et là, je pense qu'en fait, il y a une défiance qui est vraiment mauvaise parce qu'elle renvoie à la fatalité. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'au final, c'est normal en fait que les politiques ne soient pas armés en fait de toute leur cohérence pour mener à bien un projet. Et donc ça, c'est typiquement le genre de situation qui l'illustre.
Talermel.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes copains et copines, mais moi la réflexion que je me suis faite en tant que bon Français moyen, c'est j'avais un petit billet de mes grands-parents pour les étrennes le 1er janvier quand j'allais leur souhaiter la bonne année.
Ça, c'était pas aux îles Gaïmont.
Oui, et on me donnait pas des parts dans une société pétrolière, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a là, je dis, mais ces gens-là, ils sont pas comme nous, quoi. Je suis désolé. Excusez-moi, laissez-moi terminer.
Bah, ils sont riches.
Je vous dis, non, je vous dis, ces gens qui nous gouvernent ne sont pas comme nous.
Non, mais
je me sens
gens,
pas. Moi, je ne fais pas partie de leur classe.
Mais pourquoi tu généralises?
Mais
moi, je
suis. Non, mais tu généralises. Gérard Darmanin est fils de femme de ménage.
Mais je vous parle de la réaction. J'essaie d'être honnête avec vous. Moi, je ne cache rien ici. Ma première réaction a été celle-là. Un réflexe de classe en disant, eh ben encore une fois, on s'aperçoit que ceux qui dirigent les destinées de la France, pour la plupart,
c'est
celui que j'ai eu, c'est celui que j'ai eu hier. Voilà, en disant, moi j'avais un petit billet de mes grands-parents qui s'étaient essayé toute leur vie.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lui saisit tout.
Mais non, mais c'est voilà, je comprends le désintérêt de la politique pour les Français. Je comprends pourquoi l'abstention monte de plus en plus en disant, pourquoi voter pour des gens qui ne nous représentent pas.
Si l'abstention monte, enfin, je veux dire,
mais ça participe de la défiance et du dégoût des Français.
Oui, mais sauf que en fait, dans du papier argenté, quoi.
Voilà, et là on parle de ses enfants, oui, de son père, mais pas d'elle personnellement.
Mais oui, mais
en fait,
c'est ses enfants quand même, ça, son père et ses enfants.
Alors, et donc,
on appelle ça une famille.
Mais d'accord, alors d'accord.
Mais c'est légal, mais moralement ça me gêne.
D'accord, mais enfin, t'es pas responsable de ta famille, enfin, ça se saurait.
Bah, moi, je l'aime beaucoup, ma famille, et je suis très fier d'où je viens.
Enfin, bon, voilà.
Elle est sans doute aussi très fière de
venir. Elle
est responsable de ses parents, tu vois.
Oui.
Apolline Matin, ce matin, à qui est vraiment due la hausse des prix au supermarché? Producteurs et distributeurs se renvoient la balle. Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, dévoile ce matin un chiffre et donne une explication. Les charges des agriculteurs ont augmenté de presque 27% dans les exploitations.
Donc je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Nous avons une hausse de toutes les charges, plus 26,7% dit l'INSEE, augmentation des charges dans les exploitations agricoles. Mais il y a aussi une rareté, madame, qu'il faut souligner. La grippe aviaire fait que nous avons moins de volailles, la sécheresse fait que nous avons moins de légumes, la sécheresse au Canada fait que nous avons manqué de moutarde, la guerre en Ukraine fait que nous manquons d'huile de tournesol, les inondations au Pakistan font qu'il y a des pénuries de riz. Donc c'est un nouveau contexte très différent entre pénurie et inflation, et c'est vrai que ça change le paradigme habituel. Et pour les distributeurs qui ont toujours fait campagne sur « Venez chez moi, c'est moins cher », c'est une révolution culturelle.
C'est pas très gai, hein, le panorama que dresse Christiane Lambert de la situation des agriculteurs. Enfin, on en sait un peu plus sur l'augmentation des prix quand même.
Je trouve que Christiane Lambert est une excellente représentante des agriculteurs. Bien elle dit. A un franc-parler extrêmement clair. Elle dit les choses sans sourciller. Effectivement, on a un problème de base qui est que les exploitants aujourd'hui qui étaient déjà dans des contraintes financières compliquées voient leurs contraintes encore plus compliquées à cause des coûts des matières premières et des énergies. Donc, on est dans une quadrature du cercle qui va être très très compliquée à résoudre.
Deux agriculteurs se suicident en France tous les jours.
Il y a agriculteurs et agriculteurs aussi.
C'est-à-dire ?
Ah bah là, non mais si on parle de la grande distribution, on parle des grands fournisseurs, il y a aussi les grands céréaliers. Non mais
oui, bien sûr.
Non mais voilà, parce que moi j'imagine, tu le sais, on vient du
milieu. Oui, bien sûr.
Et moi mes grands-parents étaient agriculteurs. Il faut faire la différence entre le petit éleveur et le grand céréalier.
Oui, bien sûr.
Ah oui, pas par chez moi.
Leur situation n'est pas la même. Et il y a peut-être un certain nombre d'agriculteurs, grands céréaliers et grand bien leur en face, ils gagnent de l'argent, mais qui pourraient faire certains efforts, peut-être. Alors que de petites exploitations, oui. Eux, n'en peuvent
déjà
plus.
Aujourd'hui, une ferme moyenne en France, c'est 70-80 hectares, 100 hectares. C'est pas non plus des méga fermes.
Non, mais il y en a des
méga fermes. Il y en a quand même.
Les grandes gueules ce matin, vaut-il mieux acheter que louer? Depuis un an, les taux d'emprunt s'envolent. Comptez 2,20% pour un crédit sur 25 ans en novembre. L'année dernière, à la même époque, ce même crédit stagnait autour de 0,95%. Des taux beaucoup trop élevés, selon Bruno Poncet, le cheminot des GG. Pour qui acheter n'est plus du tout rentable.
Moi, j'ai des amis qui essayent d'acheter, mais il faut voir ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait quasiment qu'ils demandent à leurs grands-parents d'être garants. Tu vois. Et les taux ont augmenté, les prix ne baissent pas tant que ça, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc, ce qui fait
dans les grandes villes, en tout cas, parce que c'est encore sous tension.
Comme disait tout à l'heure Olivier, mais c'est vrai que quand tu achètes, il faut un temps de rentabilité extraordinaire, et puis à un moment donné, les banques ne te prêtent pas. J'ai acheté il y a 2 ans, et fin de crédit, vu que c'est 25 ans, 73 ans.
Ah oui.
Je serais mort, moi, déjà, avec tout le
temps. C'est pas intéressant.
Voilà, et la question, vaut-il mieux acheter que louer? Le problème, c'est pour acheter, faut avoir des moyens. On a l'impression que
on devient un peu le locataire de son banquier en vérité pour un bon petit moment. C'est vrai qu'à la fin, quand tu finis par tout payer, tu as un bien qui est à toi. Mais c'est vrai que c'est tellement structuré de manière caricaturale, en fait, les biens patrimoniaux en France immobiliers qui sont entre les mains de très très peu de personnes qui organisent un marché parce qu'ils détiennent la moitié des logements en France, je pense qu'ils appartiennent à 11 ou 13%
des propriétaires qui possèdent
la moitié des patrimoines, ouais. Qu'à un moment il va falloir trouver des stratégies pour casser en fait ce marché-là. Oui, je vois, c'est vrai que être locataire d'une banque toute sa vie pour au final à un moment finir par avoir, j'imagine que tout le monde ne peut pas en avoir les moyens, moi j'y pense même pas.
Après t'as un toit et tu peux revendre, donc c'est ton patrimoine, et c'est ce que tu vas léguer à tes enfants quand t'as des enfants, etc.
Mais oui, avec des droits de succession.
Tu vois, ça dépend. Ma fille par exemple, elle a acheté il y a pas très longtemps, elle est en train de faire les travaux, elle m'a envoyé d'ailleurs les photos des travaux au moment de la pause parce qu'elle est en train de bricoler, elle a acheté pas cher parce qu'elle peut pas acheter très cher, elle commence à se constituer une petite pelote, alors évidemment elle est endettée pour très longtemps, elle revendra avant la fin de son crédit.
C'est souvent le cas.
Elle est jeune, donc elle a la chance justement de ne pas avoir une assurance. Parce que ce qui pose problème, en fait, il faut le dire aux Français, c'est que l'assurance est élevée dès qu'on a plus de 40 ans et donc on atteint le taux d'usure et donc les banques ne vous plaident plus. Quand vous êtes jeune et que vous avez un CDI, normalement, ça passe. Ça passe. Compliqué encore, mais ça passe. Il faut le faire. Plus on est jeune, plus on commence, plus on taille, on fait sa pelote et plus ça fonctionne. Il faut être optimiste.
Voilà, et puis une majorité des Français rêvent de devenir propriétaire. Voilà, ça a été le rêve de millions de personnes. Tiens, on parlera droit de succession, justement, puisqu'on parle immobilier. Donation, ce sera à 14h dans Estelle Midi. Il faut supprimer les droits de succession et de donation, c'est ce que dit Éric Ciotti, candidat à la présidence des LR. D'accord ou pas d'accord avec lui? On en parle à 14h, mais juste avant, on va parler conso avec Stéphane Pedrazzi. Et je suis désolée pour vous, Fatima et Fred, il ne fait pas bon être célibataire en ce moment. En tout cas, financièrement. Pour le reste, Stéphane ne peut pas nous aider. En tout cas, Stéphane Pedrazzi sera avec nous dans un instant sur
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h49 sur RMC, RMC Story, et c'est le moment de parler conso avec Stéphane Pedrazzi dans Estelle Midi. Voici la minute conso.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Et on va s'intéresser aujourd'hui, Stéphane, aux célibataires. Pourquoi ? Parce que vendredi, c'est la journée mondiale des célibataires. Il y a quand même une journée mondiale pour tout.
Ouais, c'est un peu le contre-pied de la Saint-Valentin. C'est une invention chinoise, la journée internationale des célibataires. Ils ont choisi le 11 novembre. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le 1-1-1-1. C'est 4 fois le chiffre 1. célibataires. On n'en parle pas trop en France généralement, parce que le 11 novembre, on a déjà une autre célébration depuis plus d'un siècle. Mais c'est quand même aussi pour nous la journée mondiale des célibataires. Il y a 18 millions de personnes qui vivent seules en France. Attention aux clichés.
Oui, les espoirs sont permis, Fred.
Ce ne sont pas en majorité des jeunes hommes qui attendent pour s'engager et qui préfèrent en attendant multiplier les conquêtes. La réalité en France, c'est que la majorité des célibataires a plus de 50 ans et que dans 2 cas sur 3, ce sont des femmes.
Ah bon ?
Oui.
Ah oui.
Sont plus concernés par le célibat. Et le problème,
oui,
tu le sais,
c'est que ça coûte cher de vivre seul.
Oui. Selon une étude américaine, être célibataire coûte en moyenne 28% de plus pour plein de raisons.
C'est énorme.
Oui, 28%. D'abord parce que vous êtes seul à payer le loyer. Même si vous habitez seul dans un appartement plus petit, vous avez quand même besoin d'une cuisine, d'une salle de bain et vous n'allez pas chauffer moitié moins parce que vous êtes célibataire.
Si, c'est plus petit.
Oui, c'est plus petit, mais généralement, tu n'as pas 50% de la surface. T'as quand même une cuisine qui sera pas forcément deux fois plus petite que celle d'un couple. Ensuite, vous êtes seul à payer les factures. On pense évidemment à l'électricité, chauffage, mais attention, maintenant, il y a Internet, il y a Netflix, il y a tous les abonnements et on est seul à les payer lorsqu'on vit seul. Oui. La nourriture aussi a tendance à coûter beaucoup plus cher parce que si vous regardez dans les magasins, il y a très, très peu de portions faites pour les célibataires. Et lorsqu'il y a des portions individuelles, elles coûtent beaucoup plus cher. Vous prenez, par exemple, un pack de citron de jambon, regardez le prix au kilo. Si vous prenez la même marque de jambon, mais deux tranches seulement dans le pack, au kilo, ça va coûter beaucoup plus cher.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec le couple, en fait. On parle de colocation, peut-être, de solution de colocation.
Et on va en parler.
Mais les tranches, elles deviennent rassis beaucoup plus vite si tu les laisses dans le paquet ouvert dans le frigo.
Oui.
Donc, des fois, il vaut mieux.
Donc, il faut aller chez le boucher et tout le monde à la coupe.
Il vaut mieux prendre des 4 tranches, tu vois.
Et il y a aussi toutes les dépenses de loisirs, les vacances. Si vous réservez, par exemple, un voyage organisé, souvent les prix sont indiqués sur la base d'occupation en chambre double, ce qui veut dire que si vous y allez seul, vous allez payer un supplément parce que vous allez être seul dans la chambre. Et même si vous réservez juste une chambre d'hôtel, si on te demande de réserver un voyage pour deux personnes, mais le prix qu'on te donne, c'est si tu réserves à deux, en fait.
Oui.
Enfin, non, mais quand tu réserves une chambre d'hôtel, on te demande
pas d'un voyage organisé.
Ah oui, d'accord. Ah oui,
pour la chambre d'hôtel, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le prix est le même, que tu sois un ou deux dans la chambre. Donc là encore, il y a une discrimination pour les célibataires. Donc en essayant de faire la synthèse de tous ces chiffres, eh bien l'étude américaine est arrivée à ce chiffre assez impressionnant de 28%. Et en France, l'INSEE nous dit à peu près la même chose. Lorsqu'on vit en couple, on a un niveau de vie une fois et demi supérieur aux personnes célibataires. C'est absolument colossal.
Oui. Et vraiment, je trouve qu'il y a un biais dans la manière. C'est en gros quand on vit en collectif, c'est-à-dire avec quelqu'un. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être en couple ou pas.
Oui, enfin souvent les gens ils vivent ensemble parce qu'ils sont en couple. En fait.
Non, il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble parce qu'ils sont en colocation.
Mais non, mais très peu. Il doit y avoir peut-être 0,5% des gens qui sont en colocation.
Mais celles qui souffrent le plus, c'est peut-être raison, ce sont les mères célibataires compte tenu des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Elles sont doublement pénalisées lorsqu'elles vivent seules. Je ne sais pas si ça compte quand on a un animal ou de compagnie, un chien ou un chat, mais en tout cas.
Bah c'est pas le chien et le chat qui va payer les factures, donc
ça compte. Mais ils augmentent ton bien-être, donc tu es moins souvent malade ou dépressif.
Et là, ça va faire plaisir à Fatima. Ah. C'est pour ça, parce que c'est 28% plus cher d'être célibataire, que la colocation se développe.
Alors, on ne va pas s'exciter, on ne va pas tous terminer en colocation, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Ça n'est plus réservé aux étudiants, surtout dans les villes de plus de 150 000 habitants, soit sous forme de colocation classique, c'est-à-dire qu'on prend un appartement et on le partage à plusieurs, soit maintenant, il y a des nouveaux développements immobiliers, programme immobilier, merci, où chacun a un espèce de petit appartement privatif et on partage en fait ce qui est de l'ordre du commun, c'est-à-dire la cuisine, la buanderie, la pièce à vivre, etc. Oui, mais ça se construit de plus en plus. Voilà.
Ah oui.
Oui, le frigo de la colocation avec chacun.
Oh là, mon Dieu.
Ah, quel enfer. Quel enfer. Et ça va continuer à se développer parce qu'il y a de plus en plus de célibataires.
Et oui, et vous savez pourquoi il y a de plus en plus de célibataires? Alors d'abord parce qu'on se met en couple plus tard. Selon un site, match.com, les couples durables se forment vers l'âge de 27 ans.
C'est exactement l'âge à laquelle
certains
c'est l'âge auquel j'ai eu ma fille.
On divorce plus facilement aujourd'hui. À l'époque de nos grands-parents, c'était très mal vu et on préférait passer toute sa vie avec une personne, même si on s'aimait plus, plutôt que de divorcer. Aujourd'hui, on change plus facilement de partenaire et on a des périodes de célibat souvent entre les relations. Et puis, on vit plus longtemps. Et ça, c'est un peu triste, mais on a plus de risques aujourd'hui de se retrouver veuf ou veuve et donc de terminer sa vie seule pendant longtemps.
Bien, c'est gay.
Voilà pour ce petit moment de bonheur. Allez, je vais terminer avec un truc drôle. Vous connaissez les villes où il y a le plus de célibataires, Rémi ?
Si tu me regardes, c'est que c'est Lille.
Non, c'est dans le nord.
Lille, 46,6% de célibataires. Ensuite, Rennes, 44% pratiquement. Saint-Denis de la Réunion, 43%. Bordeaux, 42%. Et Montpellier, 43%. Si vous êtes célibataire, à la limite, vaut mieux aller là-bas. Vous avez plus de chance.
Et comme par hasard, les villes où on picole le plus.
C'est vrai que c'est des villes étudiantes. Donc, vous n'avez pas le score de Montreuil. Ça, c'est pour Fatima.
Juste, ce n'est pas un problème. On présente ça comme ça.
Moi, ça fait 33 ans que j'économique 28% sur mon train de vie chaque année.
Donc, je suis très content. La chance de vivre à Lille et à Rennes.
Non, mais ça tord le cou aux idées reçues. Certains pensent que leur épouse dépense trop d'argent. Finalement, c'est un meilleur plan d'être en couple. Ça coûte moins cher.
Et pour terminer, je vais simplement citer le grand Léo Ferré. Et l'on se sent tout seul, peut-être, mais peinard.
Oui. Bon, à ce moment-là, je vais citer Anne Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent.
Non, mais justement, j'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens.
Bon, c'est magnifique. Quelqu'un a une autre citation là-bas?
Non, moi j'ai des chiffres sur la colocation. Très rapidement, j'ai des chiffres sur la colocation. C'est intéressant ce que tu disais, Fatima. Effectivement, j'ai vérifié. Il y a 2,5 millions de colocataires en France. Si, si. 46% de ces colocataires sont des jeunes salariés et 40% des étudiants.
D'accord. Bon, bah écoutez, merci pour ces chiffres, Rémi.
Merci Rémi d'avoir établi la valeur de ma parole.
Stéphane Pedradi, on vous retrouve tous les jours 13h50 dans Estelle Midi. Dans un instant, on parlera de la proposition d'Éric Ciotti, candidat à la présidence des LR. Il veut supprimer les donations et les droits de, les droits sur les donations et les droits de succession. D'accord ou pas d'accord avec lui, on en débat dans un instant sur RMC. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.